partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Merci à notre invité de nous rejoindre ce matin. Il habite pas très très loin et il habite depuis une quinzaine d'années à Saint-Prix. C'est Pascal Oubréry. Bonjour, bonjour.
Bonjour et merci de me recevoir sur votre belle radio dans cette belle ville d'Enghien.
Merci beaucoup. Ancien chanteur des Petits Chanteurs d'Asnières dans les années 70-80.
Exact. Alors les Petits Chanteurs d'Asnières, c'est la chorale de base dont on a extrait à l'époque 17 gamins. Pour en faire les Poppies, avec le premier titre à l'époque, Non, non, je veux pas faire la guerre, et Noël 70 pour ensuite chanter, eh bien, Non, non, rien n'a changé.
Donc c'était ce tube, hein.
Non, non, rien
n'a changé.
On n'a pas oublié ce morceau, hein. Et puis aujourd'hui, on peut dire que non, non, rien n'a changé. Si, ça évolue, bien évidemment, mais il y a toujours autant de guerres.
Effectivement, on chantait des choses sérieuses quand même dans les Poppies. On a traité la guerre, on a traité le divorce, on a traité les accidents de la route. Et quand on dit non, non, rien n'a changé, pour résumer, bah effectivement, comme tu le dis, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Malheureusement, on est toujours dans une période agitée où il y a la guerre, où il y a des accidents de voiture, il y a plein de choses moches qui se passent. Mais il faut pas non plus être trop pessimiste. Je trouve qu'il y a quand même de belles choses aussi qui se passent, notamment sur le point de vue musique, sur le point de vue artistique en tout cas.
On va parler de votre livre dans un instant. Vous étiez placé où au niveau des Poppies, en avant, en arrière?
Alors comme j'étais petit, j'ai commencé à 10 ans, hein, j'ai fini, j'avais à peu près 15 ans. Alors comme j'étais tout petit, le petit blond on disait à l'époque, j'étais toujours devant. Ça c'est clair, j'avais une voix très très haute, soprano, soprano duo, pour faire un équivalent, si vous voyez le gamin qui a chanté dans les choristes,
oui,
bah, j'avais cette voix-là.
Jean-Baptiste Meunier.
Voilà, c'est ça, oui.
Et du coup, aujourd'hui, cette voix, elle a disparu. Bah oui.
Et voilà le gros problème. Le gros problème des Poppies, c'est que c'est un emploi à court terme. C'est-à-dire qu'on arrivait à 14-15 ans, la voix mue, et on ne peut plus chanter dans les Poppies. On revient dans les Petits Chanteurs d'Asnières, dans les chœurs, etc., si on veut. Mais moi, j'ai choisi une autre destinée parce que, eh ben, je m'imaginais que je pouvais devenir chanteur.
Vous êtes né dans l'Eure, vous avez vécu à Paris, vous êtes arrivé à Asnières et depuis une quinzaine d'années, comme je l'ai dit, vous êtes sur le Val d'Oise. Ouais. Parlez-nous un petit peu de ce parcours. Est-ce que vous étiez destiné quand même à chanter au début, au démarrage? Vos parents sont chanteurs?
Eh bien justement, c'est là que, pour d'ailleurs aucun des Poppies, mais bon là je vais parler de moi, aucun n'était prédestiné à, je n'étais pas prédestiné à devenir chanteur. Dans ma famille, il n'y avait aucun musicien, pas de chanteur non plus. Et c'est simplement par le fait du hasard que je suis arrivé dans cette chorale des Petits Chanteurs d'Asnières. C'est-à-dire que c'est vrai, je suis né en Normandie dans l'Eure, mais je n'y ai jamais vécu. Je suis né dans la maison familiale de ma grand-mère. Sinon, mes parents habitaient dans le 8e arrondissement, 8e à Saint-Augustin, dans le quartier Saint-Augustin. Puis en 1967, j'atterris à Asnières-sur-Seine. Et pendant les cours en primaire, un petit copain d'école est venu me voir. Il m'a dit, bah, ça t'intéresserait de chanter? J'avais 10 ans et là, un autre monde s'annonçait pour moi. J'ai dit oui, et sans même demander à mes parents. J'ai dit non, non, je veux chanter, ok, j'y vais. Mais voilà, je ne savais pas où j'allais, mais j'y allais. Et puis après, bah, ça a été tout de suite, en très peu de temps, je suis arrivé dans les Poppies, parce qu'au début, on est petit chanteur d'Asnières et puis on prend du grade. Et bah, après, ça a été les concerts, le samedi, le dimanche, tout le temps des déplacements, des tournées. Alors, il faut savoir qu'en France, c'était super accueilli, les Poppies, c'était un grand succès. Quand on pense sur les 5 années, là, il y a eu 5 millions de disques vendus quand même, en France.
Oui, c'est fou.
Mais autant en Hollande. Et la Hollande, c'était pire. C'est-à-dire que le public hollandais, des Hollandaises, plus souvent évidemment, bah, c'était le public équivalent à celui de Johnny Hallyday. On faisait des salles de 5 000, 10 000. Les filles arrachaient nos chemises, voulaient nous couper les cheveux. Ça devenait même dangereux parfois. Voilà l'ambiance dans laquelle j'ai grandi pendant jusqu'à 14 ans. Quoi.
J'ai dit Jean-Baptiste Meunier, c'est Meunier.
Meunier, oui.
Tout à l'heure, des choristes. Et lui aussi, qui a eu un succès impressionnant, hein, vous l'avez dit, à travers le film Les Choristes. Mais comme vous, sa voix a changé. Mmh. Là, depuis quelques temps, il en enregistre des chansons, bien sûr, elle passe un petit peu à la radio, mais c'est pas le succès qu'il a eu à l'époque des choristes. C'est compliqué après, justement, d'avoir été chanteur au sein des petits chanteurs d'Asnières, de poursuivre cette carrière musicale, d'être chanteur plus tard, de sortir des albums, de faire des spectacles.
C'est l'objet du livre, justement. Au départ, quand j'ai commencé à écrire ce récit, je dis bien, c'est une autobiographie parce que je raconte mon histoire par rapport aux Poppies et je ne raconte absolument pas l'histoire des Poppies. Et ce qui se passe, c'est qu'au début, quand j'ai raconté mes petites anecdotes, ce que je viens de dire, les concerts, les foules, les fans, il y a pas mal de choses, d'anecdotes marrantes. Mais ensuite, quand on s'y prend, on regarde de plus près, on se dit, ben, ça a été quand même difficile parce qu'une fois qu'on a mué, moi j'ai eu la chance après de faire partie d'un autre groupe produit par Gérard Louvin.
Oui, vous avez fait partie de 2-3 groupes, voilà, j'ai vu dans votre biographie.
Ça s'est appelé Récréation. Ça s'est appelé Récréation. Ça a marché un petit peu. On a fait 6-45 tours. Bon, Gérard Louvin qui était quand même producteur à l'époque, directeur artistique, pardon, de Claude François et d'Alain Chamfort. Et c'est vrai qu'on a, là, je me retrouvais dans un groupe de 5. On était plus showbiz, là. Ça y est, on commençait à rentrer dans un autre monde. J'étais plus vieux. J'avais 15-16 ans. Jusqu'à 18 ans, j'ai fait ça. Mais, bon, bah, à chaque fois, c'était difficile parce que je voulais chanter. Et puis, bah, ça marchait pas. Enfin, autant que je l'aurais voulu, surtout que moi, je voulais devenir chanteur tout seul. L'idole des jeunes. Et puis, bah, plus on avance dans le temps, plus on grandit. Alors, effectivement, je me suis mis à écrire des chansons. Je suis toujours auteur-compositeur. Je le fais toujours pour le plaisir maintenant. Je m'imagine pas que je vais devenir l'idole des jeunes à 63 ans puisque j'ai maintenant 63 ans. Et puis, évidemment, c'est, bah, quand on écrit ce bouquin, on se dit, bah, on traite des sujets parallèles, en fin de compte. On traite l'histoire, ces anecdotes drôles, sympas. Puis derrière, il y a quelque chose qui se cache. C'est ce qu'on fait quand on quitte ce métier. Parce qu'on retombe, j'irais, dans des métiers standards, hein, c'est pas péjoratif. C'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai choisi l'informatique et j'ai travaillé pendant 25 ans pour
un. Ça va, c'est un secteur qui fonctionne bien.
Voilà, oui.
Encore aujourd'hui, de toute façon.
Et c'était pour moi une bonne réussite, une grande réussite. Hein. Mais quelque part, vous avez en parallèle cette épée Damoclès qui vous surplombe et vous y pensez tout le temps. Et surtout, c'est que. Moi, je n'en parlais jamais. Je me suis tu sur toute cette période glorieuse pour moi, parce que j'avais l'impression qu'on allait penser que j'étais un raté, que voilà, j'aurais dû continuer. Pourquoi tu l'as pas fait? C'était la question qu'on me posait tout le temps. Alors j'ai choisi de me taire. Et puis, bah, c'est quand même quelque chose de pesant, de se taire. On vit d'une certaine façon. On a deux vies, quoi, une vie parallèle où on se tait, et puis une vie normale de tous les jours où on va bosser.
Ça va, vous avez gardé des contacts avec les ex-Poppies?
Quelques-uns, on se rencontre de temps en temps. Je dis pas que c'est tout le temps, mais c'est vrai que j'essaye de garder avec certains, oui, des contacts. On se téléphone ou une heure ou deux, mais il y en a pas mal d'éparpillés en France. Hein.
Donc, il faut le dire aussi aujourd'hui, les Poppies existent toujours. Les petits chanteurs d'Asnières continuent. Hein, depuis que vous avez démarré, ça ne s'est jamais arrêté. Hein, la chorale existe toujours.
Ah, mais on a nos remplaçants depuis que je suis parti. Évidemment, il y a des générations et générations.
Tout à fait.
Mais aujourd'hui, les Poppies existent toujours. Les petits chanteurs d'Asnières encore plus.
Et puis, il y a des enfants de votre époque.
Oui, il y en a eu.
Parce qu'il y a des ex-Poppies qui ont été
qui ont eu des enfants et qui ont fait partie de la chorale. Ouais. Ouais, ouais, exactement. Bon, moi, ça n'a pas été mon cas, mais c'est vrai que j'en ai rencontré qui ont eu des enfants et qui ont fait partie des petits chanteurs et même des Poppies. Alors, ils ont même appelé ça à un moment donné les New Poppies pour essayer de relancer la chose.
Et bien évidemment, en plus, ça a été distribué par une Sony, je crois, ou Universal, je ne sais plus. Hein.
Ah, oui.
Il y avait eu quand même une grosse.
Puis ils avaient fait pas mal de télévision, alors que nous, au départ, les Poppies d'antan du départ, c'était Eddie Barclay, évidemment, et puis l'auteur-compositeur le plus connu, c'est François Bernheim qui a écrit la plupart des chansons avec Jacqueline Ehrenschmidt.
On va se retrouver dans un instant, on va un peu plus parler donc de ce récit qui est sorti dernièrement aux éditions Amalthée, Souvenir d'un Poppies, ma vie d'enfant star des années 70. Pascal Oubréry est toujours avec nous, on parlera de Marie-Christine aussi. Couréas, qui a coécrit ce livre avec vous. 8h26, c'est la matinale sur IDFM Radio.
Qu'est-ce qu'on risque à passer pour des fous? fera toujours de nous des rêveurs. Des rêveurs. Chacun son monde à part, son refuge et son échappatoire.
Ce matin, nous sommes avec Pascal Oubréry de Saint-Prix. Depuis 15 ans, vous êtes arrivé comment sur le Val-d'Oise finalement ?
Eh bien, tout simplement parce que j'habitais donc à Asnières-sur-Seine et puis je louais un appartement et puis mon appartement, il a été récupéré par le propriétaire qui voulait s'en faire un super loft. Et puis il m'a dit ça serait bien que vous partiez. Alors j'ai acheté un appartement à Saint-Prix que je ne connaissais pas du tout et je n'ai pas été déçu car c'est une super ville. Et d'ailleurs, j'ai Madame le maire qui de Saint-Prix qui me donne aussi un petit coup de main pour le livre et qui va faire paraître dans la Gazette.
Cool. Comment elle s'appelle ?
J'ai un trou de mémoire.
En tout cas, vous serez aussi en dédicace au Grand Cercle d'Erani le 23 septembre. On va donner un peu plus de détails aussi dans un instant. Donc, je rappelle que vous avez fait partie des Poppies, cette vague de jeunes enfants qui ont cartonné dans les années 70. C'est vous qu'on entend sur la chanson Non, non, rien n'a changé.
Voilà, entre autres, oui, c'est
alors,
assez
c'est,
connu.
C'est pas vous le lead.
Non. J'ai été dans les chœurs, mais c'est vrai que cette chanson, c'est celle qui a le plus marqué par rapport à toute cette période. Mais c'est vrai qu'on a enregistré beaucoup, beaucoup de chansons.
Isabelle, je t'aime aussi.
Isabelle, je t'aime, oui, qui a été une grosse vente. Si je parle un peu chiffres, c'est 1,3 million pour Non, non, rien n'a changé. Isabelle, je t'aime, c'est 800 000. Alors, ça fait rêver aujourd'hui.
Dans ce livre, finalement, vous parlez un petit peu des travers aussi, de devenir en quelque sorte si jeune, star, et que du jour au lendemain, ça peut aussi s'arrêter. Vous pensiez peut-être que derrière les Poppies, alors si on vous a proposé quand même d'intégrer différents groupes, comme vous l'avez dit, notamment
le groupe Récréation avec Gérard Louvain qui produisait. Alors c'est pour faire une comparaison, c'était des groupes, c'était un groupe de boys band en avance, on va dire ça. Et ça fonctionnait, on avait un petit public quand même, et puis on vendait un peu de disques. On avait fait un morceau, je me rappelle, qui s'appelait, c'était une adaptation des Turtles. En français, ça s'est appelé Mandarine. Ça passait énormément dans le sud de la France, on faisait des déplacements sympas. Mais bon, c'est pareil, là on était plus, j'avais plus intégré le monde du, comme on disait à l'époque, je sais pas si ça continue à se dire, le show business, quoi. Mm-hmm. Là c'était le monde des paillettes, on rencontrait les Claude François, les Shella, les Ringo, tous ces gens de cette grande époque, pendant les émissions de Guy Lux.
Des artistes que vous écoutiez en boucle à la maison,
voilà,
avec vos parents.
Et là je les avais plus devant moi à la télévision, je les avais juste à côté de moi sur les plateaux de télévision. C'était fabuleux, quoi.
Assez impressionnant. Il n'y a pas eu forcément de connexion ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas fait les chœurs par la suite pour l'un de ces artistes?
Alors si, on a, avec les petits chanteurs d'Anières et les Poppies, on a enregistré énormément avec les artistes comme, je me souviens, Frida Bocard. On avait fait, il y a une chanson très connue, c'est Belle et Sébastien, qui a été enregistrée par un des membres des petits chanteurs d'Anières, Bruno. Donc on a fait les génériques. On a fait les génériques de Poli en Espagne. On enregistrait avec Enrico Macias. Moi, j'ai fait les chœurs aussi de comment ça s'appelait, la semaine des 4 jeudis avec Topalov. Et d'ailleurs, c'était Claude François qui était aux manettes dans le studio. Et alors, c'était, moi, j'étais content parce que j'aimais bien Claude François à l'époque. Et enregistrer avec lui, c'était superbe. Mais il était compliqué parce qu'il fallait non seulement jouer les gamins terribles dans la chanson, mais en même temps il fallait être sérieux et bien chanter. Donc on s'amusait pas en fin de compte, on travaillait.
Vous êtes parti aussi un petit peu à l'étranger avec les Poppies?
Oui, on a fait des tournées. Alors comme je disais, les tournées les plus importantes, c'est deux en 72 et 73 en Hollande. Donc on a parcouru toute la Hollande. Et là, ce sont des concerts tous les soirs avec 5000 personnes minimum. Et les filles, enfin je dis les filles parce que les fans, effectivement, c'était les plus des filles que des garçons, nous suivaient. On avait des groupies, comme on disait aussi à l'époque, et elles nous suivaient de concert en concert. Et ce qui est très drôle aujourd'hui, c'est que quand les petits chanteurs d'Asnières organisent un concert à Asnières, sur scène, chaque mois de novembre, ça existe encore. La dernière fois, j'y suis allé en 2018, pardon. J'ai rencontré Bruno, justement, le Martiniquais qui chantait Non, non, rien n'a changé. J'ai rencontré d'autres copains. Et il y a des quarts de filles de Hollande qui continuent de venir.
C'est fou, ça.
Alors, elles ont notre âge, mais elles prennent autant de photos. Et puis, elles sont contentes de nous rencontrer. Et puis, nous, maintenant, bah, pour nous, ce sont des amis, quoi, des copines. Donc, c'est assez marrant, mais des gens qui nous ont suivis depuis des années et des années.
Et les week-ends aussi, à chaque fois, très chargés pour des concerts, des répétitions aussi. C'était assez exigeant.
Ah oui, très exigeant, parce que Jean Amoureux, il faut le citer, parce que c'est lui le créateur des Petits Chanteurs d'Asnières. Après, Barclay n'a fait qu'une extraction de ce groupe. Mais c'est vrai qu'on travaillait. Alors à l'époque, c'était tous les jeudis après-midi, on n'avait pas classe, donc on allait chanter et répéter dans un local qui se trouvait pas à Asnières mais à Gennevilliers, juste à côté. Et après, on partait le samedi midi. Le samedi soir, on était sur les planches dans une ville en France, en général, pour un concert. Et alors, le plus drôle, c'est le matin, des fois, on faisait les messes. Aussi, alors il y a des anecdotes, d'ailleurs j'en parle dans le livre, c'est assez cocasse puisque d'habitude le curé dans sa paroisse, enfin dans son église, quand il faisait la messe le dimanche, il avait une vingtaine de personnes, mais quand les gens savaient que les popis étaient là, à son église, il refusait du monde. Donc il était un peu fâché, ça. J'avoue qu'il y a des fois, c'est assez drôle.
Votre récit, c'est le premier, donc Souvenir d'un popis, ma vie d'enfant star des années 70. C'est des anecdotes, c'est le parcours que vous avez vécu sur cette période.
Oui, il y a des anecdotes, alors il y a beaucoup de sourires. Et puis au bout d'un moment, je vous dis, ça se transforme quand même en plein d'interrogations. Parce que même étant gamin, quand on vit certaines choses, quand on écrit ça, au début, on écrit d'une façon un peu légère et puis on s'aperçoit. Alors avec Marie-Christine Courreas, une amie de longue date, on se retrouvait face à face et puis il y a des moments, il y avait de l'émotion, on avait les larmes dans les yeux parce que je vais pas raconter tout ce que je dis dans le livre, mais c'est vrai qu'il y a la disparition de certaines personnes, notamment mon père en 1973, donc j'avais 13 ans. Donc, et le soir, il y avait des concerts, on les faisait quand même, et je faisais comme si de rien n'était. Voilà, il y a plein de choses comme ça que l'on efface de sa mémoire volontairement. On laisse passer les choses parce que il y a la musique, toujours la musique, et moi, j'adore ça, quoi.
Donc, votre père vous a vu quand même chanter?
Voilà, mais très peu, parce que, 73, ça faisait juste 2-3 ans que j'en faisais partie.
Et il est parti de quoi, sans indiscrétion?
Quand il était militaire, dans sa jeunesse, il avait contracté un problème au niveau des poumons et ça l'a retrouvé à 49 ans.
Il vous a conseillé quand même, il vous a dit tu vois ce que je fais aujourd'hui, va quand même jusqu'au bout de ton rêve, continue.
Alors non, justement, on avait des parents qui disaient simplement oui, tu vas chanter cet après-midi, tu vas faire des concerts, tu vas faire des télévisions, mais c'est comme si j'allais au patronage. Mmh. Il y avait, en plus, moi j'ai trois frères, on est quatre garçons, les Dalton. D'ailleurs, on appelle ma mère Ma Dalton, qui est toujours vivante, elle a 90 ans bientôt.
Coucou maman.
Coucou maman.
Elle habite où?
Elle habite à Asnières-sur-Seine, mais elle est pas très loin. Et mais pour elle, entre Pascal et puis mes frères Thierry, Ghislain et Pierre, il y avait aucune différence. Donc moi, j'étais pas la vedette de la famille, hein, en aucun cas. Et on me disait pas non, tu vas devenir chanteur. Absolument. Oui, je sais qu'aujourd'hui, il y a des parents qui font tout pour que leurs enfants deviennent des chanteurs. D'ailleurs, moi, à ce sujet-là, je dis une chose, c'est oui, tous les gamins que je vois aujourd'hui qui veulent chanter, qui veulent faire du cinéma, je leur dis oui, il faut le faire. Mais attention, il faut avoir la tête.
Vous regardez un petit peu The Voice, des fois, ou pas?
Oui, surtout quand ça a été les premières émissions à l'aveugle, là, comme ils appellent ça. Parce que là, c'est plus sympa, parce que effectivement, on juge pas sur le physique de la personne, on juge juste sur sa voix. Et c'est bien, j'ai trouvé ça sympa, et ce concept. Mais attention après, alors je sais qu'aujourd'hui justement les popis ont fait jurisprudence parce qu'il y a eu un procès à un moment donné sur cette période des popis. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que les popis ne nous ont rien rapporté. Moi j'ai pas touché un centime. Donc il fallait quand même aimer chanter.
Oui, ça rapportait la chorale.
Voilà. Ouais.
C'était un statut un peu associatif ou pas ?
C'est une association, loi 1901. Et effectivement, avec les gains des ventes des disques, les poppies ont acheté une maison à Mirmaigne, c'est dans l'Eure-et-Loire. On avait la ville de Dagnères-sur-Seine nous prêtait un château à côté d'Amboise pour les vacances de Pâques à l'époque. Et puis on avait donc cette maison à Mirmaigne qui était achetée par les Poppies. Ça, c'était pour les vacances après la tournée au mois d'août. Et puis on avait un chalet au sport d'hiver en limite de la Savoie à la Haute-Savoie à la Giétaz. Donc évidemment, tout ça, ça faisait quand même des belles vacances rêvées.
C'est vous, hein, c'est impressionnant sur la couverture de ce récit Souvenir d'un Poppies, ma vie d'enfant star des années 70. La plupart des Poppies, vous aviez plus ou moins cette coupe de cheveux, les cheveux un peu longs.
Les années 70, avoir les cheveux courts, ça se faisait pas. Il fallait un patte d'éléphant aussi.
Quand vous voyez cette photo, vous repensez à cette période, à cette époque.
Je me souviens même du moment où elle a été prise. C'est fou parce que j'ai une bonne mémoire. Ça, pour l'instant, elle ne me quitte pas, et tant mieux. Et c'est une amie à moi, parce que je ne voulais pas que ça se sache que j'étais en train de faire ce bouquin, cette autobiographie. Et alors, j'ai plein de photos des Poppies. Il y en a même des mieux, on me reconnaît même mieux. Mais j'aurais été obligé de demander l'autorisation pour la photo. Et je ne voulais pas que ça se sache. Je voulais avoir un petit scoop de sortie. C'est la première fois que ça se fait, hein, ce bouquin. Une autobiographie sur les Poppies, enfin d'un membre des Poppies, ça n'a jamais été fait. Il existe un livre qui parle des Poppies, mais pas d'un Poppies qui parle de lui au sein du groupe.
Vous l'avez dit, donc cet ouvrage a été coécrit avec Marie-Christine Courréas.
Oui.
Donc elle vous a aidé pour certains paragraphes, les chapitres, la relecture.
Alors moi, je voulais faire une chose. Je ne voulais pas tomber dans le schéma habituel que utilisent pas mal d'artistes sûrement, enfin je ne veux pas en citer, mais c'est pas grave, c'est qu'ils prennent un magnétophone, ils enregistrent leur histoire et ils passent la cassette ou enfin le magnétophone auprès de Plume, puisque maintenant ça s'appelle comme ça, et puis bah, débrouille-toi, écris ce que je viens de dire. Ça se passe souvent comme ça. Même les hommes politiques le font. Hein. Et moi je ne voulais pas faire ça. Je me suis dit quand même, je sais écrire, je vais faire les chapitres, je vais les écrire, je me suis mis devant mon Word, et puis voilà, j'ai commencé à taper. Ensuite, j'ai appelé, je me suis dit, bon, il faut pas rêver, écrivain, ça s'improvise pas, c'est comme la musique, hein. Quand on écrit, il faut apprendre, il faut avoir de l'expérience, il y a des astuces, il y a des façons de faire, je ne les avais pas. Donc, je me suis adressé à une amie de longue date qui était professeure de français, agrégé en latin, grec, puis qui avait déjà écrit des nouvelles. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, ça t'intéresserait de me supporter dans l'écriture et puis d'arranger ça de façon à ce que ça soit pas juste un récit simple, je voudrais que ça soit un petit peu littéraire, que ça soit bien écrit. Et on s'est mis à travailler tous les deux. Pendant la période du fameux Covid, là, alors on faisait ça par webcam interposée, et elle lisait, j'écrivais le premier chapitre, après elle lisait, si elle comprenait pas tout, elle me demandait des explications, et elle rédigeait après, en corrigeant les imperfections au début qui étaient importantes, puis je m'améliorais de plus en plus. Ça, j'adorais ça. Donc, j'ai travaillé avec elle, et puis de temps en temps, c'est vrai qu'on s'est payé soit des séances de fou rire, mais aussi des séances où il y avait les yeux qui brillaient. Alors, on se retenait tous les deux face à face, mais on sentait bien qu'il y avait de l'émotion.
Merci beaucoup, Pascal Oubréry.
C'est moi qui vous remercie.
D'être venu ce matin sur IDFM Radio. Bon retour à Saint-Prix. Juste avant, on écoute un petit extrait d'une de vos chansons, L'enfant star, qui vient agrémenter justement la sortie de ce récit. Hein.
Oui.
Tu n'es que l'ombre d'irréel, des femmes me regardaient, elles m'admiraient, c'est de moi qu'elles rêvaient. J'aimais ces filles tactiles, ces belles idées. C'est vrai.
Enfant Star avec Pascal Oubrery, un extrait de cette chanson qui a été publiée dernièrement. Vous avez une chaîne YouTube,
oui,
et qui reprend, on va dire, c'est un condensé en fait de ce récit. Vous expliquez dans la chanson que vous avez tout connu, effectivement. Vous avez fait la une de certains magazines, de journaux aussi.
Et surtout, attention, bah là, quand on retombe, quand tout ça retombe, il faut le prendre avec sérénité et puis faire très attention parce que c'est pas toujours évident.
Moi, ce matin, j'ai eu la chance de vous rencontrer en chair et en os. Le public aussi pourra vous toucher un tout petit peu.
Oui.
Le 23 septembre.
J'ai même une autre date, le 21 dernier. Octobre à Cultura, Franconville.
Ah, bah cool. Voilà. C'est sympa pour dédicacer donc ce récit
aussi,
souvenir
oui.
d'un popisme, ma vie d'enfant star des années 70. Merci encore. Hein.
C'est moi qui vous remercie.
Bon retour, Pascal Oubrery. 8h51 sur IDFM Radio.
Merci.
Tu me disais que j'étais belle, ça me faisait du bien. Tu me disais que j'étais celle avec qui tu te lèves les matins.